Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain.
Au menu de cette émission, un éditorial, la belle rencontre avec Daniel Lecouédic et le sujet qui fâche, faut-il encore construire des bureaux, avec Bruno Marsloff et Bernard Landau.
Urbanité, l'édito.
Pour une esthétique des villes, Emmanuel Grégoire, adjoint de la maire de Paris, chargé de l'urbanisme, a lancé le 20 novembre dernier une opération visant à élaborer une nouvelle esthétique parisienne avec des mini-concours auprès de designers et d'architectes pour les 17 arrondissements de la capitale, une concertation avec les habitants, un groupe de travail, tout cela devant aboutir un an plus tard à une exposition au pavillon de l'Arsenal et à la publication d'un manifeste sur le mobilier urbain, mais pas seulement. Malgré le flou de cette annonce, on ne peut que s'en réjouir. Tanler Missika, ancien responsable de l'urbanisme parisien, a été marqué par d'innombrables atteintes, précisément à la beauté de cette ville qui attire tant de visiteurs. Emmanuel Grégoire pourra-t-il stopper les chantiers contestés par des associations citoyennes? Cessera-t-il d'encourager les gratte-ciel? Sera-t-il capable de substituer à la fabrique de la ville productiviste une ville au nouvel esthétisme? C'est en 1889 que Camillo Sitte, architecte autrichien, directeur de l'école des beaux-arts de Vienne, publie « L'art de bâtir les villes, l'urbanisme selon ses fondements artistiques ». Il invente le néologisme allemand « Der Stadtbau » que l'on pourra traduire par « urbanisme » quand le terme arrivera en français en 1910. À la suite d'Aristote, Camillo Sitte considère que toute ville doit procurer à ses habitants sécurité et bonheur. Aussi, la construction d'une ville ne relève pas de la seule technique, mais de l'art. Dans son ouvrage, il présente les relations entre les édifices, les monuments, les places qu'il observe dans les villes italiennes, pas encore contaminées par la manie du tout dégagé. Il faut, écrit-il, condamner la régularité guindée, la vaine symétrie et l'uniformité des aménagements modernes. Pour lui, la ligne droite et l'angle droit caractérisent un aménagement sans sensibilité. Une telle approche va séduire Charles Buls, échevin, puis bourgmestre de Bruxelles, qui la résume et la précise dans une brochure intitulée « L'esthétique des villes », publiée à l'occasion de l'Exposition universelle de Chicago en 1893, ville où se développera peu après le mouvement City Beautiful. En Europe, le tournant des 19e et 20e siècles voit l'art se préoccuper du logement ordinaire, du mobilier, de la vaisselle, du papier peint, mais aussi de la rue. On parle alors de l'art pour tous, de l'art utile, de l'art social, de l'art nouveau. Il est vrai que les villes industrielles croissent rapidement, absorbant les migrants venus des campagnes, les entassant dans des logements sordides, sans aucun confort, où règne la promiscuité. Aussi, des militants syndicaux et politiques, des artistes et designers, des philanthropes, dénoncent la pauvreté des uns que génère la richesse des autres et proposent la beauté, non comme une compensation à leur misère, mais comme l'expression même d'une vie décente et digne. William Morris, en Grande-Bretagne, s'évertue à combiner art et artisanat pour offrir à chacun un intérieur agréable avec son mouvement Art and Craft. En France, Jean Lahore milite pour que la beauté ne soit pas confisquée par les plus fortunés, mais soit accessible aux gens de peu. Trois poètes, verlibristes, post-mallarméens, s'emparent de la question urbaine et en font une question politique et sociale dont la solution se nomme art. Conviction qu'ils argumentent chacun dans un ouvrage. Gustave Kahn en 1900 dans l'esthétique de la rue, Émile Magne en 1908 dans l'esthétique de la ville et Robert de Souza en 1913 dans Nice, capitale d'hiver. Tous les trois s'enthousiasment pour les affichistes que sont alors Toulouse-Lautrec, Chéret, Mucha, qui transforment la rue en un musée hors les murs. Ils s'attachent aux plantations généreuses, aux excroissances des bâtiments, aux couleurs d'un nuancier particulièrement divers et créatif. Robert de Souza réclame un droit au paysage. Tous applaudissent à cette zone de beauté où, selon Georges de Montenac, on délimite un certain territoire spécialement pittoresque, riche en merveilles, et dans cet espace, on exerce une surveillance plus étroite contre tout ce qui pourrait détruire et altérer l'aspect général, les détails que l'on veut conserver. Par la suite, de nombreux artistes et créateurs, à commencer par les surréalistes, seront attentifs au charme d'une rue, d'un quartier, d'un morceau de ville, à son ambiance, à ses rythmes, à sa beauté inutile et pourtant convulsive. Plus tard encore, d'autres artistes se réuniront en une Académie nationale des arts de la rue pour rédiger un livre blanc et inviter l'art à s'installer partout chez elle. Puis, des artistes s'y rendront, Daniel Buren, Jean Faucheur, Ernest Pignon-Hernès, Mystique et toutes celles et ceux qui pratiqueront à leur suite le street art. Ce sont des créateurs à même la ville. Ils l'embellissent car ils l'aiment et la connaissent intimement. Sont trop tristes de la voir abandonner la spéculation immobilière, capituler devant la gentrification, se perdre dans des calculs sordides imposés par des algorithmes. La standardisation, l'uniformisation, la banalisation générée par le tourisme massifié, l'extension du domaine numérique, la spéculation capitalistique, le culte de l'objet architectural qui, comme la tour de la justice de Rezo Piano, la tour du haut de Jean Nouvel, la tour triangle d'Herzog et de Meuron, soliloquent sur leurs parcelles, ignorant ce qui les entoure et altèrent profondément le paysage urbain. Paris est enlaidi par ses constructions démesurées. Paris perd son skyline. Ses proportions sont totalement brouillées. Le piéton se retrouve écrasé, anéanti. Et lorsqu'il reprend son équilibre, les potelets, les barrières, les trottoirs encombrés l'excluent de ce qu'il croyait être son royaume. Il lui faut reconquérir la rue. Qu'il soit bien portant, solvable ou chômeur, SDF ou souffrant, avec un corps qui réclame un banc comme une escale, un abri dans la houle urbaine. Oui, la beauté urbaine appartient à chacune et à chacun. Tel un feu en plein hiver qui réchauffe nos rêves frileux.
Urbanité, la belle rencontre.
Avec Daniel Lecoédic qui se trouve en Bretagne et qui vient de publier un très beau livre intitulé « Construire un pays » aux éditions du Centre de recherche de Bretagne et de l'approche celtique, Université de Bretagne occidentale, Brest. Et dans sa préface autobiographique, il confesse qu'il est un touche-à-tout de la recherche. Après avoir réalisé son diplôme d'architecte à UP7, il publie un mémoire d'archéologie sur les roues à Carillon-Bretonne, qui donnera lieu à son premier article publié en 1973 dans la revue Archéologie. Puis, il va s'intéresser à la géoarchitecture, une notion qu'il trouve sous la plume de Le Corbusier en 1945 dans les trois établissements humains. Et puis, il va s'intéresser au régionalisme architectural. Et il va ensuite publier, entre 1978 et 2020, 211 articles absolument passionnants sur la maison bretonne, sur le paysage, sur le patrimoine. Et une sélection de ces articles constitue cet ouvrage. Dans ce nouveau livre, où on va trouver à nouveau le paysage, l'État et la nation, on va évidemment s'intéresser à un certain nombre d'architectes bretons comme Bouillet, Marchal, Mordrel, qui croient en une modernité de l'architecture avec des gratte-ciel à construire en Bretagne. On va aussi s'intéresser à l'indigène, le gendarme et le marchand. Et puis on va réfléchir, grâce à la plume acérée et à la documentation exemplaire de Daniel Lecoédic, aux notions de régionalisme, telles qu'elles sont développées par Richard Neutra et Kenneth Frampton, par exemple. Alors, cher Daniel, la première question que je te pose, c'est qu'est-ce que c'est que ce régionalisme en architecture, d'où il vient et en quoi sa coloration bretonne modifie-t-elle l'idée qu'on se fait habituellement du régionalisme ?
Ah, alors, donner une définition du régionalisme, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de Charles Le Goffic, qui dit « c'est un terrain vague où toutes les opinions se trouvent à l'aise chez soi parmi les autres ». Bon, effectivement, le mot régionalisme a été utilisé et vanté ou combattu avec des idées extrêmement différentes qui, quelquefois, ont fait bon ménage, ont pu nouer des alliances objectives ou s'opposer franchement. Alors, si on fait très rapidement un historique de ce régionalisme, eh bien, en France, puisqu'on verra qu'on peut s'en éloigner, en France, il a trouvé un terrain tout à fait favorable quand le tourisme s'est développé, en quête de pittoresque, d'exotisme même, et on a vu se développer l'idée qu'il ne fallait pas que les choses changent, parce que, ma foi, elles étaient extraordinaires telles qu'elles étaient, à condition de les consommer, hein, dans ces voyages et dans ces séjours que l'on pouvait faire loin de chez soi. Mais cette idée qu'il fallait conserver, elle était aussi portée par les bien nommés conservateurs qui désiraient arrêter le temps et pour qui arrêter le paysage, arrêter l'environnement, c'était une façon d'arrêter le temps. Et donc, en rester aux architectures telles que la paysannerie avait pu les développer leur paraissait un excellent moyen d'éviter les évolutions qu'ils craignaient. Et puis, il y a eu, et c'est là qu'on voit que les opinions les plus diverses ont pu se manifester, des rationalistes aussi, qui combattant les principes académiques en matière d'architecture, ont pensé que la maison paysanne était par excellence une maison fonctionnelle, que le paysan qui n'était pas animé par la volonté de paraître, aurait développé des architectures en relation directe avec la fonction. Donc on voit qu'il y a eu autour du régionalisme des idées extrêmement diverses. Mais il y en avait une autre qui, elle, a suscité un débat qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, a pu trouver son paroxysme pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'idée qu'il fallait veiller à la conservation d'une culture. Alors, parmi ceux qui avaient ce point de vue, il y avait bien sûr les conservateurs qu'on a évoqués, mais il y avait aussi des progressistes qui étaient instruits de ce qui s'était passé à la fin du XIXe siècle dans le cadre des renaissances nationales en Europe nordique et en Europe centrale, où là, le chemin avait toujours été le même. Il fallait démontrer qu'on avait une antériorité, qu'on était fondé à réclamer l'exercice d'une nationalité, et donc il fallait montrer que l'on avait une culture, et on commençait par faire des recherches sur la tradition paysanne, ce paysan qui avait été moqué, vilipendé, brusquement devenait un conservatoire, conservatoire d'une langue ancestrale, conservatoire d'une tradition, et au travers des arts appliqués, il était aussi le conservateur d'un art de vivre. Mais en Europe nordique et en Europe centrale, on n'en est pas resté à un point de vue nostalgique, conservateur. On a pensé qu'à partir de là, il fallait démontrer que l'héritage était encore fécond et l'on a pu développer des architectures qui ont été découvertes en Europe occidentale à l'occasion de l'exposition de 1900. Et là, nos Bretons, qui étaient travaillés par des tourments identitaires, on pensait qu'un même chemin pouvait être emboîté. D'autant que la route avait été empruntée. On parlait des chants populaires, c'est le Kalevala en Finlande qui avait été fondateur de cette façon de voir, de faire et de collecter, 1835, mais dès 1839, c'est le Barzazbreiz en Bretagne, qui sera traduit en 20 langues assez rapidement. Donc tout semblait parti pour emboîter le pas effectivement de ces renaissances nationales. Mais évidemment, ça impliquait le développement d'une idéologie qui a pu connaître des dévoiements, on en parlera tout à l'heure. Et puis, il y a eu quelque chose de très inattendu, dans la mesure où le régionalisme, brusquement, est apparu pendant la guerre de 14, est apparu à l'État, au pouvoir central, comme un bon moyen de démobiliser les pulsions identitaires. Autrement dit, le régionalisme que beaucoup voyaient comme la sanctification d'une idée qui aurait pu déboucher sur un exercice politique ou une autonomie, l'État a compris qu'on pouvait au contraire en faire un endormissement. L'idée était qu'il fallait combattre les choses qui étaient menaçantes pour l'identité nationale, les langues minoritaires par exemple, mais qu'il fallait lâcher du lest et qu'en contrepartie, il fallait admettre et même vanter un certain nombre d'activités, la danse, la musique et l'architecture, qui pouvaient apparaître comme une reconnaissance d'une identité, alors que c'en était sans doute une condamnation. C'est ce que Lévi-Strauss appelait le faux évolutionnisme, faire semblant de reconnaître une culture pour mieux l'enfoncer. Et au sein de ce qu'on appelle le mouvement breton, ceux qui étaient travaillés par ces pulsions identitaires que j'évoquais tout à l'heure, il va y avoir deux catégories, ceux qui vont tenir pour le régionalisme et ceux qui, au contraire, au nom de l'identité bretonne, vont le combattre. Et ceux-là vont adhérer au mouvement moderne, qu'ils connaissent bien, parce qu'il se trouve que les deux principaux leaders à ce moment-là du mouvement breton sont architectes. Et l'un d'entre eux, d'ailleurs, est bien connu, en tout cas son œuvre est bien connue, c'est le Guenadu, le drapeau breton d'aujourd'hui, qui flotte sur tous nos bâtiments publics et qu'il a dessiné en 1925.
Alors donc, le régionalisme, pour poursuivre ta réflexion, il y a donc, on a bien compris, il y a un mouvement régionaliste qui naît en même temps que l'État-nation, dans la plupart des pays qui sont en train de se constituer au moment du printemps des peuples en 1848. Dans le cas français, et ça c'est très bien raconté par Jean-Charles Brun, l'ouvrage de 1911 que tu mentionnes à plusieurs reprises sur le régionalisme, où il montre qu'il y a un héritage proudhonien d'un côté pour lutter contre l'hypercentralisation de la France et donc redynamiser les régions et leur redonner leur poids politique. Et puis il y a une version, j'allais dire, plus royaliste et de droite avec Charles Maurras, qui s'inspire aussi de cette lutte contre une centralisation abusive, mais pour d'autres motifs. Et donc le mouvement breton va être aussi traversé par cette division-là. Et là, ce serait bien que tu nous expliques davantage le lien entre ces Bretons qui ne sont pas traditionnalistes, mais qui sont au contraire modernistes. Et il y a dans ton livre deux articles qui l'évoquent assez longuement. Le premier, de 1988, c'est « Le visage et les masques du fédéralisme breton », où tu insistes lourdement sur la figure de Philippe Lamour. Et puis l'autre texte, c'est « Le Corbusier et la Bretagne », un texte de 1996 que tu analyses également à travers la figure du village radieux. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux moments-là de ton livre ?
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, ceux qui refusent le régionalisme qu'ils estiment être un centralisme, eh bien, vont être assez rapidement à la recherche d'alliés, pourrait-on dire, ou tout au moins de compagnons de route qui ont développé des idées semblables, même si ce n'est évidemment pas dans le cadre breton. Et ils vont à ce moment-là rencontrer Philippe Lamour. Philippe Lamour, qui est un personnage extrêmement complexe, hein, très souvent aujourd'hui on le connaît comme inspirateur de la Datar, on sait qu'il y a un lycée à Nîmes qui porte son nom, qu'il y a un canal même dans le Midi qui a été baptisé de son nom. D'autres se souviennent aussi qu'il a publié en 1926 un petit opuscule, La République des producteurs, qui se terminait par Nous sommes fascistes, car effectivement il a été avec aux côtés de Valois, fondateur du premier parti fasciste français. Bon, donc des gens extrêmement complexes. Le même Philippe Lamour, d'ailleurs, en 1936, candidat aux législatives, se désistera pour le Front populaire. Donc on voit que les grandes catégories qui ont été dressées aujourd'hui et qui, très souvent, animent encore le débat, mériteraient la nuance. Et donc, nos Bretons, qu'est-ce qui les intéresse chez Philippe Lamour ? Eh bien, il est en train de créer un mouvement qui s'appelle le Plan, et auquel Le Corbusier, d'ailleurs, contribuera. C'est une revue qui développe des idées qui sont extrêmement novatrices et qui font une place assez large, effectivement, à la production artistique, et qui sont aussi nourries de fédéralisme, toutes choses qui intéressent particulièrement nos Bretons. Et Philippe Lamour, qui est en quête aussi d'alliés, viendra assez régulièrement en Bretagne, participera d'ailleurs à des congrès du Parti autonomiste breton et encouragera ces artistes dans leur démarche. Il sera aussi comme avocat qu'il était, avocat de quelques militants bretons qui devront en découdre avec la justice française. Bon, Le Corbusier, eh bien, Le Corbusier, c'est plus compliqué. Il avait des amis bretons, et notamment Pierre Guéguin, un poète et critique d'art, qui était un de ses proches, qui vont l'attirer en Bretagne. Il était déjà venu une première fois, mais en touriste, hein, et il va revenir avec un autre regard et avec d'autres appuis, et fera la connaissance de Joseph Savina. Joseph Savina, avec qui il va co-signer toute son œuvre sculptée, lequel Joseph Savina était présent à la création du Parti autonomiste breton et faisait partie de cette jeunesse, et qui effectivement, humilié, pensait qu'il se devait à une attitude envers la Bretagne qui aurait été à la fois respectueuse de son passé, mais qui l'aurait fait entrer dans la modernité. Entrer dans la modernité, ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire d'une part admettre la ville, alors que les mouvements conservateurs ne parlaient que de la campagne, et d'autre part, ça voulait dire être capable de travailler avec le mouvement moderne qui se développait. Alors, il y a évidemment là, a priori, une ambiguïté. Le mouvement moderne, tout au moins tel qu'on le présente aujourd'hui, voulait faire litière de toutes les particularités, était universaliste, on parlait de style international. Eh bien, nos Bretons, en s'appuyant sur un certain nombre d'anthropologues et d'idéologues aussi, ont développé une autre idée, c'est que le mouvement moderne, c'est un moyen d'effacer un tableau surchargé que le XIXe siècle a rendu illisible, notamment dans le domaine des arts, et spécialement de l'architecture, et que donc on va repartir à zéro. Mais c'est là qu'il faut intervenir, quelque chose qui va chez certains mener à des points de vue extrêmement contestables, l'idée que si ça signifie encore quelque chose que d'être breton, eh bien après cette remise des compteurs à zéro, une particularité, mais qu'on ne peut pas pronostiquer, va renaître. Alors, les uns parleront de race, les autres d'héritage. Ceux qui parlent d'héritage vont s'affilier à une tendance qui n'a pas encore de nom, d'ailleurs, qui est l'archéocivilisation, une idée qui est développée notamment par André Varagnac, c'est-à-dire cette idée que nous portons en nous encore, j'ai des chromosomes extrêmement lointains qui viendraient même de la préhistoire, qui ne demanderaient qu'à réapparaître et qui seraient latents. Et donc, le mouvement moderne, pour ces Bretons, ce n'est pas une abdication de la différence, c'est l'idée que la différence doit renaître dans une modernité et qu'elle n'est pas prévisible. Alors, c'est un pari, évidemment, que les conservateurs n'acceptent pas.
Alors, les trois architectes que tu isoles un peu pour les analyser plus longuement, c'est Bouillet, Marshall et Mordrel. Est-ce que les trois ont des destins terribles, enfin, à part le dernier ?
Oui, alors, le Mordrel et Marshall étaient des jeunes gens extrêmement brillants. Quand on lit ce qu'ils écrivaient à 19-20 ans, on est vraiment ébloui. Et ce sont des gens qui sont extrêmement ferrailleurs. Alors, on parle très souvent aujourd'hui du complexe de Mars, c'est-à-dire c'est la génération qui est venue après la Grande Guerre, qui évidemment ne pourra jamais avoir les mêmes moments de gloire que leurs aînés, qui sont sortis formidablement grandis de cette guerre, et ils vont devoir s'inventer de nouveaux combats. Et il s'invente dès les lendemains de la guerre ce combat d'abord autonomiste qui deviendra nationaliste pour Mordrel et fédéraliste pour Marshall, et ils vont embarquer dans ce combat l'art et l'architecture, justement parce qu'ils sont étudiants en architecture puis architectes de talent d'ailleurs pour Mordrel, car Mordrel a ce destin aussi extraordinaire, deux fois condamné à mort, réussissant à gagner l'Argentine et y restant 30 ans avant de revenir, mais simultanément, il a un édifice qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques aujourd'hui. Donc, des gens que là encore, on peut regarder avec des lunettes extrêmement différentes selon la partie de leur activité, selon la période de leur engagement, et ce ne sont pas du tout des gens monoblocs, bien évidemment. Mais les deux, effectivement, auront des destinées assez extraordinaires. Marshall, le pauvre Marshall, qui condamné à l'indignité nationale, finira sa vie à Paris, à la compagnie des compteurs de gaz, et qui mourra dans un hôpital, dans la salle commune, et bien qui laisse aujourd'hui le drapeau breton, que, encore une fois, tous les bâtiments publics de Bretagne, toutes les mairies portent à leur fronton. Mordrel, lui, qui du fond de son exil argentin, écrira des grammaires bretonnes et reviendra pour lancer une entreprise qui sera d'ailleurs assez florissante dans le grand âge, dans le pays bigoudin. Mais donc, des gens assez étonnants. Alors, aujourd'hui, très souvent classés, balayés, pourrait-on dire, d'un revers de main, parce que, effectivement, des engagements certainement condamnables, qui ont pu être les leurs à certains moments de leur vie, très souvent servent à résumer des vies qui ont été d'une grande complexité, d'une grande richesse, et qui méritent un autre regard, certainement.
Ben écoute, merci beaucoup, Daniel. Notre séquence touche à sa fin. Je rappelle le titre de ton livre, Construire un pays, et puis je te souhaite un très bon chemin.
Merci beaucoup et merci de cette invitation.
Urbanité, le sujet qui fâche.
Faut-il encore construire des bureaux ? Le récent télétravail rend caduque bien des immeubles de bureaux. Le tertiaire, bien avant la pandémie, du reste, a connu de profonds changements. On connaît des firmes qui ont régulièrement délocalisé dans d'autres pays francophones, au salaire plus bas, leurs services comptables et surtout leurs archives, qui deviennent de plus en plus dématérialisées dorénavant. Le Grand Paris Express, par contre, un peu à l'ancienne, continue à imaginer qu'il faut que chaque gare soit couronnée d'une tour de bureau et que son sous-sol soit une aire de chalandise, comme à la bonne époque des Trente Glorieuses. De nombreux bureaux sont transformés en logements, mais pas assez, et de nouveaux bureaux, ou les anciens rénovés, adoptent des ambitions environnementales, mais pas assez. Qu'en est-il donc des bureaux à présent ? Pour en parler, Bruno Marsloff, sociologue, fondateur de Chronos, qui est un laboratoire des mobilités innovantes, auteur en 2013 d'un ouvrage qui a toujours son actualité, j'allais même dire qui renaît à nouveau, qui s'appelle « Sans bureau fixe », qui est publié aux éditions FIP, dont on va parler bientôt, et puis Bernard Landau, qui est urbaniste, architecte voyer de la ville de Paris, qui a été l'ancien adjoint à la direction de l'urbanisme de la ville de Paris de 1908 à 2000, de 2008 à 2014, je le vieillissais, et qui est le président de l'association La Seine n'est pas à vendre. Alors Bruno, dans ton livre, tu parles de solopreneurs. Et de qui s'agit-il ces personnages et en quoi viennent-ils modifier finalement le cadre habituel du travail qu'on appelle du travail tertiaire qu'on appelle le bureau généralement dans une tour qui s'appelle également de bureau.
Alors il faut resituer l'évolution du travail à partir en fait des premiers pas de la data à la fin des années 80 sur le télétravail qui visait en fait les campagnes. Et puis cet épisode a été relativement court, mais malgré la persistance de ce qu'ils appelaient les EPN, les espaces publics numériques. Et il a fallu attendre en fait la génération des solopreneurs ou des nouveaux entrepreneurs, auto-entrepreneurs et toute la génération des start-up pour voir arriver une nouvelle forme de bureau qu'on a appelé espace de coworking, qu'on a appelé Fab Labs, etc. Makerspace et autres, et qui en fait surfait beaucoup sur les activités, les développements autour du numérique. Et puis cette vague en fait s'est propagée gentiment, lentement, doucement. Et puis il y a eu quelques événements qui sont passés qui ont accéléré cette notion de travail à distance. Qu'on a coagulé dans le terme de télétravail, qui me paraît extrêmement réductrice, on pourra y revenir, mais parce que je pense que le télétravail est bien trop assimilé au domicile et qu'en fait, il se passe quelque chose d'autre. Il s'est passé en effet quelque chose autour des aménagements à l'intérieur du travail, des flex-office et autres aménagements, mais en fait, on n'a jamais remis en cause les canons mêmes du travail. Ces rythmes du travail fordiste, rythmés par l'embauche et la débauche à 9h du matin, 5-6h de... Et c'est ça, en fait, qui structure à la fois l'organisation du travail, mais qui structure la ville et qui structure l'ensemble de ses mobilités. Et c'est en effet autour de ça que j'ai réagi avec ce petit ouvrage en 2013. Pour en fait pointer que l'urbanisme n'avait pas changé, qu'on persistait sur à répliquer la défense, ses grandes tours, son monofonctionnalisme travail, que pleine commune n'est que la réplique de la défense.
Ses horaires de jour et sa fermeture la nuit.
Voilà, et puis c'est 200% de taux d'occupation des RER qui les desservent à 9h du matin. Donc en fait, une aberration du travail face à la ville, face aux mobilités, qu'on ne sait toujours pas articuler intelligemment.
Bernard Landau, cher Bernard, qu'est-ce qu'il en est de la construction des bureaux ? Parce qu'on en construit encore. Quels sont les motifs des promoteurs de bureaux aujourd'hui ? Parce que ça a aussi changé, j'imagine.
Je pense que Thierry posait cette question aujourd'hui dans le contexte de la crise sanitaire qui a accéléré des choses qui étaient déjà sous-jacentes. Bruno vient de le rappeler, notamment le développement du coworking, qui était bon, et dont certaines entreprises le télétravail, mais de façon assez marginale, fait que ta question est très singulière, parce que moi, il me semble, si tu veux, que dans le phénomène de métropolisation des grands territoires auxquels on a assisté, je dis on a assisté parce que je crois qu'il va probablement être revisité conceptuellement. Mais ça, on pourra en parler si tu veux tout à l'heure. On a été dans une mondialisation du financement de l'immobilier et donc de l'immobilier d'entreprise également, ou de l'immobilier tertiaire, qui a drainé des fonds d'investissement qui ont cherché des segments où l'investissement sur l'immobilier tertiaire, mais pas seulement, était privilégié. et que c'est grosso modo ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, avec évidemment des choses qui se projettent de façon spécifique selon les territoires. Parce que si on regarde par exemple la situation de Paris, Paris reste toujours à l'échelon de la région parisienne la place forte des bureaux, on va dire, avec la Défense et ensuite Petite Commune, et puis d'autres segments qui essayent de se développer, notamment autour, Bruno vient de le rappeler, des gares du Grand Paris, où je crois que toi, tu l'as comparé, avec une conception de l'urbanisme aux abords de ces gares, qui est une conception qui, en fait, s'avère probablement déjà datée ou d'un autre temps, compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, donc, ce que disent les chiffres, parce que j'ai un petit peu regardé, si tu veux, avant de répondre à ton invitation. Il y a évidemment, alors là, il y a l'encéphalogramme plat des chantiers. Enfin, si tu veux, là, il y a, c'est que suffire de taper l'immobilier de bureau sur Internet et regarder les articles des revues un peu spécialisées. Les taux de vacances baissent. Enfin, non, les taux de vacances augmentent, mais de façon différenciée. À la Défense, ça commence à être un problème. À Paris, je crois que c'est de l'ordre de 4%. En cœur d'agglomération, selon les secteurs, c'est beaucoup plus important. Donc, et on en reparlera, si tu veux, je crois que le groupement investisseur promoteur de l'immobilier tertiaire, et donc le métier du tertiaire, et je crois, ça va avoir une nouvelle réflexion stratégique par rapport à ce produit, quoi. Donc ça va poser la question du stock, qu'est-ce qu'on en fait de toutes les questions que vient d'aborder sociétales, hein, beaucoup plus profondes que vient d'aborder Bruno, et notamment, tout le monde constate, même dans une logique de, si je puis dire, de rentabiliser ou d'utiliser à bon escient le patrimoine disponible. Hein. Si tu veux, par exemple, le coût pour une entreprise de l'immobilier, ça passe, c'est le deuxième poste après le coût du salaire, hein, si tu veux, dans le budget d'entreprise, et je crois que à Paris, je crois que c'est 18 000 euros par an, 18 000 euros par an par salarié pour un bureau, quoi, je dirais, ou un poste de travail dans un immeuble de tertiaire. Donc tout ça va certainement être sérieusement revisité.
Alors, revenons quelques instants quand même sur ce mot télétravail, parce qu'on en parle partout. Et effectivement, il y a le télétravail tel qu'il était mis en avant il y a déjà 30 ans. Et on nous annonçait même que ça allait se développer très, très rapidement. Et puis, ça n'a pas pris. Il faut peut-être que tu nous expliques pourquoi, Bruno. Et ensuite, aujourd'hui, c'est un autre travail, un télétravail qui est imposé et qui est directement lié au fait du confinement. Donc, on reste chez soi. Et ça va, évidemment, à l'encontre de nouvelles formes d'organisation territoriale du travail et puis aussi de nouveaux types de bureaux, qui sont des bureaux à l'heure, des bureaux à la semaine, etc. Et donc, l'idée du tiers-lieu que tu présentes déjà dans ton livre de 2013, qui est une notion, je le rappelle, qui est inventée par un sociologue américain qui s'appelle Ray Oldenburg, qui en 1989 publie un ouvrage, Great Good Place, c'est-à-dire les bons endroits plutôt, et donc la notion de tiers-lieu apparaît là, et c'est très étonnant parce que c'est soit une librairie, soit un café, soit un mouvement, un lieu d'une association, etc., qui finalement devient un endroit partagé finalement. Alors revenons au télétravail d'abord.
Revenons au télétravail. Donc en effet, premier coup de la data fin des années 80. Et en effet, l'idée que dans le rural, il y a de plus en plus de déplacements, énormes déplacements, pour aller travailler. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas installer ces fameux EPN, ces espaces publics numériques ? En fait, le marché n'est pas mûr. Le marché n'est pas mûr d'abord parce que le numérique n'est pas encore là. L'Internet n'est pas encore diffusé. Et puis surtout, pèse, et continue de peser jusqu'à aujourd'hui, une vision très fordiste du travail, avec un contrôle de l'employeur sur l'employé, et donc le présentiel. Et ça, ça va suivre toute l'évolution du travail jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même aujourd'hui, 25 novembre, où il y a des négociations syndicales, syndicats patronaux, et autour du télétravail. Et on voit que là, la prégnance du contrôle pèse énormément sur l'évolution du télétravail. Alors, pourquoi je suis très gêné par cette notion de télétravail, c'est avec la Covid, il y a une assimilation du travail, du télétravail, du travail à domicile. On est passé au 15 mars de 6-7% de télétravailleurs à 25-30%. Donc quelque chose d'énorme, une évolution considérable, mais surtout deux grosses surprises, une compétence spontanée quasi totale et une appétence assez énorme qu'on va mesurer au déconfinement où la plupart, en tout cas la très grande majorité, 70-80% selon les études, de ces actifs avaient envie de continuer ce mode de fonctionnement. Bon. Et puis à ce moment-là, les entreprises ont demandé le retour au siège, le présentiel, et le deuxième confinement a été l'occasion, là, d'une tension très forte avec la plupart des entreprises qui ne souhaitaient pas répondre à l'injonction gouvernementale, celle d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, qui enjoignait aux entreprises de télétravailler chaque fois que c'était possible. Et donc, on est à ce moment-là. Et à ce moment-là, on mesure, en fait, la crainte, voire la peur des entreprises de sauter ce pas du télétravail. Les mots hier du MEDEF, c'était rien de normatif, rien de prescriptif dans le télétravail. En d'autres termes, rien de définitif qui nous condamnerait à une relation de travail à distance. Et c'est exactement l'inverse qui se passe du côté des actifs, des salariés, qui, eux, ont vécu quelque chose de très nouveau. C'est ce mélange des sphères professionnelles, personnelles, sociales, quelque chose de très nouveau, parce que le régime fordiste est un régime de cloisonnement des sphères. Et là, tout d'un coup, elles étaient mélangées. Interrogé par les médias, parce que j'avais produit une tribune, j'ai dit qu'on était sur un mouvement irréversible. Mais en revanche, je ne sais pas à quelle vitesse les choses vont se passer. Et je ne sais pas selon quelle modalité, en termes d'aménagement, il va se passer. Les hypothèses qu'on peut faire, c'est que vraisemblablement, et c'est esquissé par cette première génération qu'on a évoquée tout à l'heure, d'auto-entrepreneurs, de start-upers, etc., c'est qu'on se dirige vers quelque chose qui est de l'ordre d'un archipel, avec aux deux extrémités le domicile, puisque de toute façon, le domicile, on y travaille, ne serait-ce que par l'interpellation de son téléphone mobile, et puis le siège, parce que de toute façon, on se rendra toujours au siège. Mais qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Il va se passer une exacerbation de ce qu'on observe déjà quand on prend un TGV à 8h du matin et qu'on voit la moitié des ordis qui sont ouverts et des gens qui travaillent. Des banquettes des gares dans lesquelles il se passe la même chose. Des cafés sur lesquels les gens vont travailler. Et de ces espaces professionnels qui s'organisent ici et là, où on va en effet coworker. Donc voilà, on en est là, avec une résistance mais qui n'est pas généralisée. Hein. On voit PSA qui, au sortir du premier confinement, décide que tous les cadres seront en télétravail et n'auront obligation que de venir un jour par semaine. On voit les grandes entreprises du numérique qui professent que, en espace de 1 an, 6 mois, 2 ans, selon qu'on s'appelle Twitter, Google ou Facebook, l'intégralité des actifs seront en télétravail. Donc voilà, le mouvement est parti, on peut maintenant spéculer sur comment ça va se passer, mais on peut aussi spéculer sur qu'est-ce que ça veut dire de l'aménagement territorial, puisque tout ça coïncide aussi avec l'exacerbation au moment du Covid de quelque chose qui précédait déjà, c'est-à-dire d'une inversion des migrations des campagnes, plutôt des villes vers les campagnes. Donc certains ont parlé d'exode urbain. Oui, c'est vrai, quand ça se passe en une journée où 200 000 Parisiens quittent la capitale le 15 mars, mais il ne faut pas abuser du terme, mais il se passe quand même quelque chose, ou en tout cas c'est quelque chose que nous, dans les études qu'on a pu réaliser, on sentait ce rejet de la ville dense, ce rejet de tous ces excès de la ville, et on les connaît bien, et notamment la voiture, les congestions, le bruit, les pollutions, le stress, etc. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une espèce de télescopage, d'une transformation du travail et de transformation de la ville et du territoire.
Alors Bernard Landau, la ville, comment elle se transforme? Pareil, il y a aussi un décalage. Tu parlais tout à l'heure d'un urbanisme à l'ancienne qui perdure avec
un immobilier du bureau. Enfin, d'abord, je pense que comme nous tous, on est dans des questionnements profonds, puisque Prenons même l'hypothèse d'une société dans laquelle on n'est plus dans le modèle fordiste, mais ce que vient de dire Bruno, et je pense que tous les gens qui sont dans ce qu'on appelle le télétravail a un impact direct sur ce qu'on appelle le logement et la conception des lieux d'habitat. Bon, donc on voit que la question, par exemple, des modèles ou des programmes, des objets d'habitat ou de travail vont évoluer. Bon, c'est un peu général ce que je dis, mais je pense que tout le monde le comprend dans sa vie privée.
C'est-à-dire qu'il faut que les architectes introduisent un endroit, un emplacement dans l'appartement pour le télétravail.
Non, mais on saurait. Il y a des syndicats qui disent, attendez, nous, on veut bien travailler à la maison, mais qui paye la facture de la partie du bureau que je consacre à mon travail à la maison pour l'entreprise, que je paye dans mon loyer, et la partie... Toute chose par ailleurs légitime. Je rappelle le chiffre de tout à l'heure, puisque le coût quand même de l'immobilier dans les frais fixes de l'entreprise est un coût très important. Donc il n'y a pas que la force de travail, il y a tout ce qui permet d'accompagner la production de la valeur qui est donnée par le travail. Donc on est sur des choses quand même très structurelles. De la même façon, je ne suis pas sur la ville, je suis sur les objets. Hein, sur les objets. Les objets au milieu de bureaux ont beaucoup changé ces 10 dernières années. Quand tu regardes les programmes, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les bureaux individuels, la conception de la... grosso modo, si tu veux, on ne calculait plus les surfaces de nouveaux bureaux en fonction d'un remplissage à taux plein, si tu veux, du nombre de salariés susceptibles de venir travailler dans l'entreprise. Grosso modo, l'abattement était de 25% de la surface qu'il eût fallu en d'autres temps, à la période idéale du fordisme, consacrée pour que les gens soient bien installés. C'est-à-dire qu'on est dans une diminution un peu de l'espèce de travail. L'informatique permet de ne pas avoir chacun dans son bureau les rangées de bouquins, de bibliothèques, de références, etc. On a un casier dans lequel on vient chercher. Il y a plein d'entreprises. Moi, j'ai suivi notamment dans la pharmacie des déménagements de gros sièges avec les salariés qui partent à un endroit où le foncier est un peu moins cher, mais tout en restant dans la région parisienne, et les programmes de construction de l'immobilier de bureau. Si tu veux, la conception du bureau de ces bureaux-là n'a rien à voir avec la conception des bureaux de ce qu'on voit dans les films américains de l'entre-deux-guerres ou dans les tours de la Défense. Déjà, il y a ce mouvement. Mais alors, j'ai fait un peu de digression. La question que tu poses sur « et la ville là-dedans », moi, je crois que la ville, elle a quand même une richesse, c'est qu'elle est flexible, elle est mutable. C'est-à-dire que dans le stock dont on hérite, on fera peut-être d'autres choses. D'un point de vue d'une mixité, on voit que... Je donne un exemple sur les flux et la logistique. C'est un élément qui prend plus de place dans la gestion du capital immobilier dont on hérite, d'une part. Et d'autre part, on a chassé de la ville tout ce qui est un peu maintenant ce qu'appelle, alors on voit la ville productive, faut-il remettre des activités productives et lesquelles dans les villes qui sont parties loin en dehors des villes. Je pense qu'on va arriver à des choses, disons, plus souples, enfin plus flexibles, et qui se traduiront aussi dans la programmation. Il y a pas mal d'archis qui bossent sur des conceptions de bâtiments mutables, c'est-à-dire qui peuvent servir à l'un et à l'autre, voire à autre chose. La dernière chose que moi qui m'intéresse, si tu veux, par rapport à ce sujet, c'est, et ça on l'a bien vu, je dirais, un peu de façon polémique à Paris, par exemple, qui est une ville très dense, c'est que le foncier avait tant de valeur que dès qu'il y avait un mètre carré, il fallait construire. Eh bien, le foncier, il a également de la valeur de par le vide qu'il peut permettre pour aérer les villes. Et donc, peut-être que ce mouvement permettra de penser aussi de ce point de vue, c'est-à-dire sur les équilibres entre... Alors là, on est sur d'autres sujets, le réchauffement climatique, tout ce dont a parlé Bruno sur pourquoi on fuit l'hyperdensité de la ville, c'est parce qu'elle est beaucoup moins supportable, elle est beaucoup moins agréable, elle est beaucoup moins... je réécoutais Schitt, que j'avais oublié, si tu veux, de ce qui fait quand même un peu l'attractivité, la beauté, l'intérêt d'habiter dans la grande ville par rapport à d'autres... Bon, tout ceci, c'est quand même beaucoup, beaucoup altéré. Donc, je suis un peu optimiste sur les grandes tendances qui devraient être devant nous. Voilà.
Alors, vous connaissez tous Patrick Bouchain, qui est un architecte audacieux et qui a beaucoup d'idées. Et justement, il imagine que le télétravail sous de nouvelles formes pourrait s'effectuer dans des boutiques qui sont fermées, abandonnées, ou dans des futurs centres commerciaux qui vont péricliter à cause du commerce en ligne. Et alors là aussi, ça redonne au rez-de-chaussée des villes des activités tout à fait intéressantes, non, Bruno ?
Oui, c'est pas simplement les villes. faut aussi s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Il y a un exemple qui est en train de se passer qui est très 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 intéressant, très très troublant. À l'ouest de Paris, on a la plus grande intercommunalité française, c'est Grand Paris Seine-et-Oise, GPSO, 400 000 habitants sur un territoire jalonné par les Mureaux, Mantes, etc.
Ah oui.
Et ce territoire va voir arriver, on le promet depuis le Grand Paris Express, va voir arriver à Eole en 2024. Et en fait, ce qui pouvait sembler être une merveilleuse annonce, tout d'un coup, les a plongés dans un abîme de perplexité. Parce que un gros tuyau comme ça, est-ce que ça va ne pas amener encore plus de résidents dans une zone qui a cette caractéristique? C'est exporter au quotidien 50% de ses actifs qui vont travailler, qui à Vélizy, qui à La Défense, qui à Pleine Commune, qui à Paris, etc. Dans une zone qui est traversée par la Seine et avec ses goulots d'étranglement qui sont les ponts. Quasiment 100% des ménages ont au moins une voiture et souvent plus. Ils ne peuvent pas s'en servir parce que sinon, évidemment, on est dans ce syndrome de la congestion qui existe, c'est pas très nouveau, depuis très longtemps, et dont on fait le constat, mais qu'on ne guérit toujours pas. La question qu'on n'a pas encore abordée jusqu'ici, c'est quand même bien cette question de la mobilité et de la congestion urbaine. Elle est quand même essentielle, puisque finalement, et là le travail prend toute sa responsabilité, puisque c'est sur les points de trafic de l'embauche et de la débauche que doivent se calibrer l'offre de transport, sachant que le reste du temps, elle sera sous-utilisée. Donc on est quand même dans une aberration, dans un marché équilibré. C'est quelque chose qui devrait se passer. C'est comme si on demandait à Ryanair de ne transporter que les gens le week-end parce que les gens voudraient passer des week-ends mais n'utiliseraient pas la semaine. Donc il y a quand même quelque chose de très très étrange là. Et c'est aussi contre ça qu'il y a un mouvement de, j'allais dire quasiment de révolte, des usagers. On mesure que l'appétence pour le télétravail, elle est directement corrélée à la distance qui sépare les résidences du travail. Et c'est évident. Quand on sait que les actifs de la seconde couronne ont une moyenne, pour ceux qui quittent leur commune, de 2h30 de déplacement par jour. Donc on voit bien l'aberration qu'il y a. Et donc je reviens à ce territoire, parce que là, ils ont réfléchi et ils sont partis depuis un an sur un programme extrêmement intéressant de mailler l'ensemble de ce territoire d'une petite centaine de hubs, des hubs qui vont ramener en fait la multiple fonctionnalité au plus près des quartiers, des résidents, avec une première fonctionnalité qui est celle d'essayer de rationaliser, d'améliorer l'offre de transport avec de l'intermodalité. J'arrive avec mon vélo, je continue avec une voiture en partage, une navette, etc. Bon. Le tout maillé par 500 km, c'est le projet qui a commencé à être réalisé, de pistes cyclables qui les relient, et avec l'idée derrière de faire de ces lieux des espaces multifonctionnels. C'est-à-dire qu'ils pourront héberger éventuellement du travail à distance, héberger des ressources de logistique pour les livraisons de commerce à distance, héberger des associations, héberger des petites épiceries, etc. L'idée, moi, me semble assez intéressante, une espèce de subsidiarité qui ramènerait, à l'inverse de ce qui s'est passé pendant des décennies, de désertification des zones rurales, urbaines, voire périurbaines, là où on ramènerait au plus proche des habitats des ressources qui ont disparu, et notamment les services publics. Donc là, je pense que le coup est parti, et en tout cas, nous, dans le cadre de la Fabrique des mobilités, puisque depuis très récemment, j'ai pris la présidence, plutôt on m'a confié la présidence de cette association de la Fabrique des mobilités, on œuvre autour dessus de ce concept pour essayer de faire réfléchir les territoires à ce nouvel enjeu. Donc, et par rapport à ce que tu disais, Bernard, c'est pas simplement la question des villes et des grandes villes, c'est celle de tous les territoires et de la reliance de ces territoires.
Bernard, est-ce que tu parlais de l'objet hein, et de l'architecture, tu nous expliques que les bureaux sont plus petits, qu'on est dans l'open space et non plus dans des bureaux individualisés, qu'il y a peut-être plus cette hiérarchie du nombre de mètres carrés selon le poste qu'on occupe, comme c'était le cas. Hein. Je suis chef, j'ai un bureau plus grand et si possible au dernier étage de la tour à la Défense. Bon, donc là, on voit bien cette nouvelle configuration. On voit bien aussi que IBM a été un des premiers à non pas liquider, mais à en partie se libérer de son patrimoine immobilier très coûteux. Donc est-ce que ça, c'est aussi une tendance que tu as repérée? Et dans ce cas-là, les projets comme à l'île Seguin ou ailleurs qui misent encore sur des bureaux, est-ce qu'ils ne vont pas changer finalement leur fusil d'épaule?
Alors, oui, il y a un certain nombre de projets que les jeunes appellent les grands projets inutiles. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des coûts qui étaient partis, qui ramènent du bureau. Il y a déjà beaucoup de bureaux, puisque là, si on prend l'exemple que tu cites de Boulogne et de l'île Seguin, c'est que effectivement, au centre de l'île Seguin, pour terminer l'aménagement de cette île, qui est quand même une saga qui dure depuis une quinzaine d'années, il nous est proposé, je crois que les permis de construire viennent d'être délivrés, de construire 130 000 mètres carrés de bureaux sur l'île Seguin. C'est quand même quelque chose de... Enfin, aujourd'hui, ça semble quelque chose d'un autre temps, c'est-à-dire Ou alors on veut jouer la concurrence interne entre, en disant que parce qu'il y a une station de métro du Grand Paris qui arrive à proximité, il y aurait de la redistribution. Mais bon, c'est un peu un non-sens pour plusieurs raisons. Là, ce cas est mis en épingle parce que l'histoire de l'île Seguin est tout à fait symbolique et il y a un vent de contestation locale aussi parce que on peut dire que ça altère énormément le grand paysage d'une très belle boucle de la Seine. Ça va à l'encontre de tout ce qui se raconte, qui est aujourd'hui un peu du bon sens, c'est-à-dire sur le fait que les fleuves, par rapport au réchauffement climatique, sont plutôt des grands couloirs de ventilation, des couloirs de rafraîchissement des zones urbaines denses, et qu'aller redensifier de cette façon le centre d'une île, c'est tourner le dos à l'histoire. Bon. Mais là, ce cas-là, je dirais, il est presque emblématique, mais il n'en meurt pas moins que... Je constate un peu, notamment, par exemple, dans des projets qui étaient dans la famille des réinventés, où on y est allé franchement, quoi, en disant on va un peu rêver, comme, je sais pas, l'histoire de Mille Armes derrière la porte Maillot, ou le projet multistrate sur une couverture du périph'. Je pense que ces projets sont assez sérieusement plombés. C'est-à-dire que ce que l'on sentait déjà un petit peu, ça on se répète, c'est-à-dire sur des tendances d'évolution sur le travail et l'investissement et l'immobilier tertiaire a été sérieusement accéléré par la crise qu'on traverse, qui est une crise sanitaire, mais qui se conjugue avec d'autres crises. Crise sociale, crise climatique, crise sanitaire. Mais donc crise systémique aussi un peu de société, quoi. C'est-à-dire, et qui pose d'autres questions dont nous débattons. Ce que je trouve vraiment intéressant dans l'exemple qu'a développé Bruno, c'est qu'il donne enfin... une perspective audible à un débat qu'on a maintenant depuis presque 20 ans sur la métropole. Alors, est-ce qu'il faut une métropole intégrée, c'est-à-dire, en gros, on prend Paris, puis on étend Paris à l'ancien département de la Seine, en considérant que c'est là que tout se passe et que c'est là où c'est stratégique, ou est-ce qu'on va tendre vers une idée d'un polycentrisme? Si tu veux, je crois que même... C'est pour ça que je ne prends que cet exemple, parce qu'il a été... utilisé comme argument sur la question de l'hyperdensification, par exemple, de la zone dense ou de Paris. C'est-à-dire, on nous disait, aux confins de Paris, il faut construire des tours, parce que sans ça, on va empiéter sur l'étalement urbain et imiter les campagnes de la zone suburbaine ou de la période des franges. Bon, je crois que tout ceci va être vu, regardé d'un autre point de vue. D'abord parce que c'est pas aussi... dramatique ou aussi caricatural que c'est soit l'un, soit l'autre. Bon, et que d'autre part, même d'un point de vue d'un développement sur l'idée de polycentrisme, d'équilibre régionaux, d'équilibre à l'échelle de tous les territoires, tant finalement quand même, moi j'aime bien la formule de Pierre Veltz, la métropole, c'est la France. À l'échelle de ce qu'est le monde aujourd'hui, on peut raisonner sur le territoire français, qui est un magnifique territoire, hein, les côtes, les grands fleuves, les montagnes. On regarde, il y a une géographie absolument merveilleuse. Bon, il n'y a pas de raison que la Lozère ne profite pas autant du maillage qu'elle avait hérité sur le réseau ferré que les confins de la région parisienne. Je tords un peu le bâton. Mais c'est à cette échelle-là, probablement, qu'il faut beaucoup plus réfléchir et j'espère que ce que nous vivons se traduira par de nouvelles réflexions.
Je voudrais juste revenir un peu sur des on ne peut pas tout aborder, évidemment, mais sur des points qu'il faudrait peut-être creuser. D'abord, qui télétravaille ? Parce que ce n'est pas toutes les catégories socioprofessionnelles qui peuvent télétravailler, ce n'est pas tous les jobs qui peuvent l'être. Donc là aussi, il y a peut-être des formes, non pas d'inégalité, mais disons de mode de vie un peu différencié. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me semble assez important. Et aussi pour sa localisation, parce qu'il y a certains types de métiers qui peuvent être télétravaillés de très loin, j'allais dire, donc en Lozère, dans un cadre beaucoup plus agréable peut-être que...
Le climat est rude.
Voilà. Bon, donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quelque chose que André Gorz avait appelé l'immatériel, dans un livre du même nom, où il expliquait que le capitalisme, et c'est un paradoxe, voulait se libérer du salariat, alors qu'il est né sur le salariat, et que finalement l'auto-entrepreneur ou le solopreneur deviendrait finalement un petit capitaliste à lui-même qui économiserait le salaire que l'entreprise lui verserait et serait finalement toujours un éternel chargé de mission. Et donc dans une situation finalement qui est stressante. Parce qu'il faut enchaîner les missions pour pouvoir assurer son propre loyer de son propre logement, qui est en même temps son propre bureau. Voilà, donc ça, c'est aussi des tendances qu'il faut peut-être essayer d'analyser, Bruno.
Oui, alors sur le travail à distance. Le travail à distance, il y a une jauge qui est assez intéressante. Elle nous vient des États-Unis. Il y a un récent sondage de Gallup qui date du mois de septembre, qui mesure qu'on a 33% de la population des actifs qui est en télétravail régulier et 28% qui est en télétravail irrégulier. Ce qui veut dire qu'on a 58% de la population qui est amenée à travailler régulièrement ou non à distance. Et ça, ça nous donne la jauge, parce que je ne vois pas qu'il y ait de différence fondamentale dans le type d'économie et le type de travail qui est exercé. Alors, on connaît les raisons. Hein. L'auto-entrepreneur, lui, il est fondamentalement prégnant dans le mode de fonctionnement du travail américain. Mais en même temps, ça nous dit toute la marge de développement qu'il peut y avoir là-dessus. Aujourd'hui, en effet... On n'a jamais autant parlé de télétravail depuis le confinement. Les études se sont multipliées. Et ce que je retiens de ces études, c'est quand même, dans l'ensemble, plutôt quelque chose qui est ressenti positivement, avantageusement, même si tout le monde sait très bien que la notion de contrôle perdure avec le système du numérique. Hein, ce n'est pas ça qui va le faire disparaître. Donc il y a là un combat d'arrière-garde des entreprises, du middle management, qui pensent que c'est le présentiel qui va assurer ça. Donc, non. Donc, deuxième point qui me paraît extrêmement important, c'est cette confusion que je rappelais dès le début entre télétravail et domicile. Elle est, en effet, extrêmement dangereuse parce qu'il y a beaucoup de configurations de ménages, de foyers, d'espaces domestiques dans lesquels cet espace n'est pas possible et que les enfants qui courent dans les pattes, les coups de téléphone qui traversent la sphère du logement, tout ça ne fonctionne pas.
Et puis la double journée de travail des femmes, il ne faut pas non plus l'oublier.
Absolument. Et ça, ça a été, à juste titre, très clairement répété. Il y a, en effet, la question du genre là-dedans et qui s'invite de façon extrêmement forte. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place, et que tu l'évoquais tout à l'heure, faudrait-il imaginer des espaces dédiés dans les nouvelles conceptions d'aménagement pour le travail ? Pourquoi pas ? Il faut y réfléchir. Ça ne conviendra pas à tout le monde, mais c'est une option. Donc, en effet, ce sur quoi il faut réfléchir, c'est... Et puis, il y a aussi le besoin, l'envie, la nécessité absolue qu'il y a de rencontrer d'autres gens dans le cadre du travail. Bon, ça peut se passer au siège, mais pourquoi ça ne passerait pas ailleurs ? Donc là, je pense qu'on est au début simplement d'une réflexion. Et il faut qu'on arrive à dépasser cette espèce de combat d'arrière-garde que j'évoquais tout à l'heure et qui se cristallise là dans les négociations qui sont en cours ces jours-ci sur quel télétravail, sous quelle forme, etc. Et qu'on admette que forcément, le travail va changer. Et on est sur une forme d'autonomisation du travail et de rapprochement vers des formes traditionnelles du travail. Il y avait, je terminerai juste sur ce point-là, il y avait Matthew Crawford qui a écrit il y a quelques années
Éloge du carburateur.
L'éloge du carburateur, qui est quand même une réflexion sur la transformation du rapport au travail.
Bernard.
Je pense qu'on est sur une question qui n'est pas qu'une question d'aménagement du territoire.
Mais non, je ne pense pas, parce que moi, j'essaye modestement depuis quelques années de réfléchir sur ce couple qu'on a trop fréquemment séparé, territorialité et temporalité. Et je crois que la réorganisation de ce que moi j'appelle l'écologie existentielle passe précisément par cette nouvelle articulation entre les territorialités de notre existence et leur temporalité spécifique. Et là, du don, évidemment, la place du travail, la place du rapport aux enfants, etc., etc.
Non, je te suis tout à fait. Je vais dire les choses autrement. J'ai quand même un peu le sentiment, si tu veux, que l'auto-entrepreneur, c'est l'esclavage des temps modernes. Je te donne juste un exemple. Essaye de passer, de faire mettre la fibre chez toi. Bon, eh bien, le technicien qui vient, il est auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'il est dans une chaîne. Moi, je l'ai vécu, expérimentant, si tu veux. Dans des grosses boîtes, si tu veux, type, je ne sais pas, Orange, Bouygues, qui bossent sur le plan, enfin, les services commerciaux, les services techniques, les relais, tout ça, c'est expatrié. La seule personne qui fait vraiment le boulot, c'est-à-dire qui va venir chez toi et qui a la connaissance un peu de l'ensemble de la chaîne, il est livré à lui-même, il n'est pas salarié des boîtes, il est auto-entrepreneur avec N+5 au-dessus de lui. Et il ne touche qu'une petite partie du bénéfice de l'ensemble. Donc moi, j'introduis ce que je voulais introduire dans cette discussion, et j'en suis assez persuadé, c'est que l'auto-entrepreneur, c'est le nouveau prolo des temps modernes. Et que le salariat et le travail, il produit quand même une valeur qui est redistribuée dans la forme du salariat traditionnel, peut-être, tel que j'entends. Enfin, tu me connais par rapport à mes préoccupations, ma conception de ce qu'est le travail. Et ce que produit le travail comme valeur et la façon dont cette valeur est redistribuée socialement. L'auto-entrepreneur, c'est tout à fait l'inverse. Regarde les agences d'architecture. Il y a de moins en moins de salariés et de plus en plus de sous-traitance sur des tâches hyper spécialisées de telle ou telle fonction. Et toi, tu fais bien des perfs, donc auto-entrepreneur. Toi, tu es spécialisé dans la surveillance du chantier. Tu as ton diplôme Bac plus 8. Auto-entrepreneur sur la surveillance du chantier, les grosses évolutions, si tu veux, que l'on est en train de vivre par rapport au salariat et à l'auto-entreprise, c'est ça ce qu'elle veut dire. C'est pas du tout du progrès social dont la mondialisation. C'est une régression, à mon
avis. Alors peut-être que... Non, mais le débat doit être posé. Et on est en train de le poser, à mon avis, dans les bons termes. Et ça fait écho à un livre que je suis en train de lire qui me passionne, qui s'appelle « Le capitalisme de surveillance », qui est un livre anglais qui vient d'être traduit seulement en français, et qui explique qu'on change de capitalisme. C'est-à-dire que ce n'est plus le capitalisme fordiste, et justement par Ford, hein, qui introduit le travail à la chaîne, etc., massifié, etc. Là, on entre dans quelque chose d'autre, où la production de richesse n'est plus la même, où le gâteau à se partager n'est plus le même, où on est dans tout à fait autre chose. Alors, il faut qu'on se revoie, chers amis.
Ah bah, bien sûr.
Je vous remercie. À bientôt.
Bonsoir.
Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.